Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été du matin des musiciens. Toute cette semaine aux couleurs du jazz sur France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Des musiciens pendant trois saisons. C'est ouvert au jazz chaque mardi. J'ai donc eu l'occasion de recevoir des dizaines d'invités musiciens ou spécialistes d'un sujet pour évoquer une grande figure de l'histoire du jazz, un instrument, un style ou un thème plus transversal. Je vous propose donc cette semaine une sorte de traversée en diagonale de l'histoire du jazz en revenant sur un certain nombre des enregistrements historiques qui nous ont intéressés depuis les tout débuts du jazz jusqu'à la période la plus récente. Chaque matin, donc jusqu'à vendredi, je vous proposerai beaucoup de musique, attention, chef-d'œuvre. C'était en 1921, James P. Johnson signait ce solo qui allait en quelque sorte constituer l'étalon du piano stride Carolina Shout. Le piano stride, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans Le Matin des Musiciens au cours de ces trois dernières saisons, notamment en compagnie d'un des meilleurs spécialistes de la question, le pianiste Louis Mastier, avec qui nous avons décortiqué le style de James P. Johnson, de Fats Waller, de Willie Lyon Smith notamment, et puis dans la génération suivante, ceux de Art Tatum et de Teddy Wilson. Wilson. Le stride, cette manière d'enjamber une partie du clavier avec la main gauche, c'est l'une des grandes inventions de cette musique afro-américaine que le monde entier s'est appropriée depuis un siècle sous l'appellation de jazz. C'est aussi d'une certaine manière le chaînon manquant entre le ragtime, qui se situe chronologiquement très nettement en amont à la fin du 19e siècle, et puis le jazz qui va s'épanouir dans sa période classique entre le milieu des années 20 et la fin des années 30. James P. Johnson, dans cette aventure, reste à jamais l'un des grands défricheurs du genre et l'un de ceux qui mirent au piano les canons de cette musique. Mais la palette est large dans les années 20 et pour ne parler que du piano, par exemple, on trouve aussi sous les doigts d'un musicien blanc que l'on connaît surtout comme cornettiste. Il s'appelle Biggs Beiderbecke, un tout autre mélange, fruit d'autres inspirations, notamment de la musique européenne. Voici l'un des enregistrements les plus célèbres de Biggs Beiderbecke, ici au piano et non pas au cornet, donc. Cela s'appelle « In a Mist » et cette brume, la mist, n'est pas sans évoquer quelques teintes impressionnistes. Évidemment, après le Carolina Shout de James P. Johnson, cette composition In a Mist de Biggs Beiderbecke, gravée pour l'occasion au piano par le cornettiste en septembre 1927, ne joue pas tout à fait dans le même registre, en tout cas dans un registre sûrement moins virtuose. L'histoire du jazz balance ainsi toujours entre des chemins différents, une sorte de voie royale, celle qu'empruntent les créateurs les plus en vue, ceux qui définissent les canons à suivre, les étalons à imiter, et puis ceux qui vont construire d'autres voies qui seront suivies en parallèle, de manière sans doute moins bruyante, mais qui feront leur œuvre peu à peu, petit à petit, dans les oreilles des musiciens et des amateurs, et que l'on redécouvre parfois quelques décennies plus tard. On sait que Biggs Beiderbecke fut très important, malgré sa disparition prématurée, très jeune, en 1931, pour les générations suivantes jusqu'à nos jours, et on pense bien sûr à Chet Baker, évidemment, et Biggs a laissé son empreinte sur de très nombreux artistes. On y a fait allusion d'ailleurs à plusieurs reprises reprises dans Le Matin des musiciens ces dernières années. Et je vous renvoie aussi à l'ouvrage de Jean-Pierre Lyon sur Bix Beiderbecke. Si l'on reprend le balancier dans l'autre sens, évidemment, le grand nom qui vient à l'esprit à cette époque, au milieu des années 20, c'est celui de Louis Armstrong, encore tout jeune. Nous avions évoqué son génie en compagnie de Patrice Caratini, notamment, qui a conçu tout un spectacle autour de la figure de Louis Armstrong. Là encore, avec Armstrong, nous avons affaire à un maître à jouer, un maître à penser, dont les propositions seront reprises, imitées, jusqu'à l'overdose, en particulier dans le cadre de certains enregistrements considérés comme ses plus grands chefs-d'œuvre. À l'instar de ce Western Blues gravé par son Hot Five en 1928, Western Blues qui s'ouvre sur une introduction qui a fait couler beaucoup d'encre, trait de génie incontournable, phrase projetée vers l'avenir dans l'inconnu du XXe siècle. C'était en 1928 par le jeune Louis Armstrong. Western Blues, la version la plus célèbre de cette composition de King Oliver, dans l'enregistrement de juin 1928. Le trompettiste et chanteur ici, Louis Armstrong, avec son Hot Five. Le Hot Five, c'est le trompettiste Fred Robinson, le clarinettiste Jimmy Strong, le pianiste Earl Hines, le banjoiste Mansi Carr et le batteur Dottie Singleton. J'ai parlé de l'introduction tout à l'heure de Louis Armstrong. Je n'ai pas évoqué l'extraordinaire phrasé et la magnifique mise en place du jeu de Louis Armstrong par la suite dans cet enregistrement. la manière dont il répond en chantant au solo de clarinette de Jimmy Strong, la qualité du solo de piano de Earl Hines, le petit solo d'Armstrong lui-même vers la fin avec cette longue tenue et la toute fin avec là encore le rôle de ce magnifique pianiste Earl Hines. C'est bel et bien un petit bijou que ce Western Blues gravé le 28 juin 1928 à Chicago. La même année, le trompettiste et le pianiste Louis Armstrong et Earl Hines se retrouvaient pour un duo d'anthologie où ils semblent inventer tout un langage, ce langage qui allait irriguer le jazz jusqu'à nos jours en ce qui concerne la liberté dans l'échange, l'écoute, la relance, la fécondation mutuelle. Cela s'appelle Weatherbird. Ça s'appelle Weatherbird. C'est un duo entre le trompettiste Louis Armstrong et le pianiste Earl Hines, enregistré en décembre 1928 à Chicago. Oui, car l'histoire du jazz, c'est aussi des villes, des lieux, des mouvements, des déplacements, des voyages. Et dans ces années-là, c'est bien Chicago qui tient encore le haut du pavé, même si l'on distingue déjà à New York une extraordinaire concentration de pianistes, parmi lesquels le jeune Fats Waller, qui a su, vous allez le voir, tirer les leçons de son mentor James P. Jones. Thank you. Merveilleux titre que ce Handful of Keys, les mains pleines de touches de piano. Le jeune Fats Waller n'a rien à envier aux plus grands pianistes de l'époque, tout style confondu. Ici, nous étions en sa compagnie à New York en mars 1929. On voit bien l'évolution de ce style de piano stride, issu à l'origine du ragtime, co-inventé par un certain Scott Joplin. Scott Joplin, dont les compositions continuent d'intéresser les musiciens de jazz, même dans les années 30. C'est par exemple sur son Maple Leaf Rag que le saxophoniste spécialiste du soprano Sidney Bechet croise le fer avec son camarade trompettiste Tommy Lanier. Nous sommes en 1932 et toujours à New York. Maple Leaf Rag de Scott Joplin par les New Orleans Feet Warmers en septembre 1932, avec notamment les deux solistes d'envergure, Tommy Lanier à la trompette et Sidney Bechet au saxophone soprano. Nous étions non pas à la Nouvelle-Orléans, mais à New York, avec des musiciens qui se réclament bien sûr de l'héritage de la Nouvelle-Orléans. Mais on sait que dès les années 10, dès les années 20, les musiciens étaient amenés à beaucoup voyager, pour certains jusqu'en Europe ou même plus loin. C'était le cas de Sidney Bechet précisément. Dans l'autre sens, évidemment, les musiciens européens ont pu s'imprégner du jazz par les disques, mais aussi en rencontrant des musiciens américains qui s'étaient installés pour des périodes plus ou moins longues sur le continent européen. C'est ainsi que lorsque l'on fonde le quintet du Hot Club de France en décembre 1934, le violoniste Stéphane Grappelli et le guitariste Django Reinhardt peuvent se montrer tout à fait à la hauteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Thank you. Daina, le quintet du Club de France avec Django Reinhardt, guitare solo, Stéphane Crapelli, violon, Roger Chapuis et Joseph Reinhardt aux guitares rythmiques et Louis Vola à la contrebasse. C'était en décembre 1934, c'était les vrais débuts de cet orchestre et pourtant c'est déjà d'un très haut niveau. On retrouvera Django Reinhardt un petit peu plus tard dans cette émission. Dans ces années où triomphe ce que l'on appelle maintenant le swing, on a l'image d'une musique américaine entièrement gouvernée par les grands orchestres, les big bands, et pourtant c'est aussi un âge d'or pour les petites formations de studio. Nous avions d'ailleurs longuement évoqué la question avec Louis Masti à propos des orchestres réunis autour du pianiste Teddy Wilson, une sorte de directeur artistique d'un haut niveau lui aussi, des orchestres qui nous permettent notamment de découvrir une toute jeune chanteuse, elle a tout juste 20 ans, elle s'appelle Billie Holiday, nous sommes en 1935. What a moon, what a night, what a boy, chante Billie Holiday en juillet 1935. Elle a tout juste 20 ans, mais une maturité déjà exceptionnelle. On lui connaîtra un répertoire beaucoup plus sombre. Nous y reviendrons d'ailleurs dans cette émission. Ici, elle était magnifiquement entourée avec le trompettiste Roy Eldridge, le ténor Ben Webster, le pianiste Teddy Wilson notamment. Je mettais l'accent sur les petites formations, mais il serait très déraisonnable d'ignorer les grands orchestres, les big bands dans ce milieu des années 30, et parmi eux est l'un des plus intéressants dans l'équilibre qu'il entretient entre les arrangements préparés à l'avance et puis les interventions des solistes. C'est bien sûr celui de l'orchestre de Count Basie. Ici, par exemple, nous l'écoutons sur un thème prétexte. Ça s'appelle One O'Clock Jump et on peut apprécier les solos du chef au piano, des saxophonistes ténors Herschel Evans et Lester Young, du tromboniste George Hunt et du trompettiste Buck Clayton. Nous sommes en 1937. Thank you. Clap Jump, l'orchestre de Count Basie en juillet 1937 avec les formidables solistes de l'époque. Basie lui-même au piano, les ténors Herschel Evans et Lester Young, le trombone George Hunt et à la trompette Buck Clayton. Nous franchissons une nouvelle fois l'Atlantique pour retrouver Django Reinhardt, cette fois-ci aux prises avec deux violonistes très différents. Il y a bien sûr son compère, le français Stéphane Grappelli, mais aussi l'américain Eddie South. Ils vont s'appuyer sur une partition préexistante, tout simplement celle du concerto pour deux violons en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Ils ne sont pas tout à fait les premiers à le faire, mais d'une certaine manière, ils sont les premiers d'une longue lignée qui se perpétue aujourd'hui autour de la musique de Bach, qui englobe d'ailleurs plus largement tout le répertoire dit classique et qui permet à de nombreux jazzmen d'enrichir leur vocabulaire, de se renouveler en empruntant parfois de manière très pertinente, parfois de façon un petit peu plus discutable. Nous en avons parlé dans le Matin des musiciens, notamment en compagnie de Guillaume de Chassy, qui s'intéresse de longue date au sujet.
Thank you.
Le premier mouvement du concerto pour deux violons en ré mineur, BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach, gravé en novembre 1937 à Paris par les deux violonistes Eddie South et Stéphane Grappelli, avec la guitare Django Reinhardt. C'est bien sûr le début d'une très longue lignée de reprises ou d'adaptations de Jean-Sébastien Bach par des musiciens de jazz. J'évoquais tout à l'heure la toute jeune Billie Holiday, la chanteuse de 20 ans dont on appréciait déjà la subtilité de la mise en place, l'intelligence du phrasé. La petite Billie Holiday va prendre une toute autre envergure lorsqu'elle va enregistrer le 20 avril 1939 l'un des hymnes les plus courageux, les plus engagés contre l'Amérique raciste de cette époque. Nous l'avions d'ailleurs évoqué en compagnie de Franck Bergerot, notamment lorsque nous avons retracé les chemins de la liberté dans le jazz, dans le matin des musiciens, et ce fruit étrange qu'évoque ici Billie Holiday, ce strange fruit, ce fruit qui pend aux branches des arbres, c'est bien sûr le corps du noir supplicié par le lynchage. Strange Fruit, Billie Holiday en avril 1939, un disque essentiel dans cette histoire du jazz, dans l'itinéraire de la chanteuse, dans l'épopée des droits civiques en Amérique. Un disque charnière, en tout cas, comme d'autres enregistrements de cette même année 1939. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec le saxophoniste Coleman Hawkins et son Body and Soul. Mais il est aussi des manières moins tranchées, apparemment, et pourtant tout aussi tranchantes, de faire preuve de son identité en s'appropriant un répertoire venu d'ailleurs, Sidney Bechet, et l'un des premiers musiciens de jazz à reprendre la berceuse de George Gershwin, Summertime, tirée de l'opéra Porgy and Bess. Sidney Bechet en fait un objet d'une profonde humanité, jouant de sa sonorité et des effets de roussité de son instrument, le saxophone soprano. Nous sommes toujours en 1939. Summertime, la berceuse de George Gershwin, dans une interprétation d'une très belle portée poétique et humaniste par le saxophoniste soprano Sidney Bechet, que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans cette émission du Matin des Musiciens au cours de ces trois dernières saisons. Il y avait à ses côtés Teddy Bann à la guitare et Madlox Lewis, notamment au piano. Nous avions consacré aussi deux émissions au génie de Django Reinhardt à l'occasion de la très belle exposition qui lui a été consacrée à Paris à la Cité de la Musique, et l'un de nos invités, le guitariste Roman, s'était plu à souligner l'extraordinaire capacité d'improvisateur dont Django Reinhardt faisait preuve en ce même mois de juin 1939, d'ailleurs dans cette gravure du standard « I see you in my dreams ». La prise de risque ici est à la fois parfaitement contrôlée et d'une admirable audace. I'll see you in my dreams, le guitariste Django Reinhardt en juin 1939. À ses côtés, Baro Ferré à la deuxième guitare et Emmanuel Soudio à la contrebasse. Une interprétation d'une remarquable inventivité. Django Reinhardt avait-il patiemment élaboré jour après jour cette interprétation en retenant telle formule sur tel enchaînement d'accords, en essayant d'autres solutions, en polissant son objet tel une sculpture sonore? C'est en tout cas très certainement la manière dont procédait au même moment le saxophoniste ténor Coleman Hawkins, qui devait laisser à la postérité l'un des disques les plus célèbres de l'histoire du jazz, sa version du 11 octobre 1939 du standard Body and Soul, l'un des thèmes les plus prisés des musiciens de jazz. Coleman Hawkins expérimente ici d'un bout à l'autre de cette plage de 3 minutes où ses partenaires se fondent dans une discrétion très étudiée. Il faut laisser s'exprimer ce grand soliste qui explore les harmonies du thème en les parcourant verticalement à force de gammes et d'arpèges. Ce sera un exemple, bien sûr, pour les générations suivantes et nous y reviendrons. Thank you. Modern Soul, la version célébrissime du saxophoniste ténor Coleman Hawkins, c'était en octobre 1939. On a parfois dit que cet enregistrement constituait la charnière entre le jazz classique et le jazz moderne. On voit en tout cas que cette manière de travailler sur la mélodie, d'en exploiter toutes les ressources harmoniques, sera très utile aux musiciens de la génération qui va suivre, ceux qui vont inventer le bebop. On en reparlera un peu plus tard. Nous n'avons pas encore cité un des très grands noms de cette musique, Duke Ellington. Or, nous arrivons à l'année 1940. D'une certaine manière, c'est l'année idéale pour parler d'Ellington, car il signe cette année-là une flopée de chefs-d'œuvre, même si, bien sûr, il a été très actif depuis déjà une quinzaine d'années. On retrouve Duke Ellington au meilleur dans plusieurs registres, notamment dans celui du duo avec le formidable contrebassiste Jimmy Blanton. C'est l'un de ceux qui ont ouvert la voie à la contrebasse moderne. Nous l'avons évoqué d'ailleurs avec notre invité Ricardo Delfra dans Un matin des musiciens. Peter Panther Patcher, Duke Ellington piano en duo avec le jeune contrebassiste Jimmy Blanton. Jimmy Blanton qui allait disparaître moins de 2 ans plus tard de la tuberculose en 1942. Évidemment, un petit peu plus tôt, en cette année 1940, Duke Ellington est aussi le formidable chef d'orchestre que l'on sait, le mélodiste, l'orchestrateur, celui qui veut, qui sait écrire pour ses solistes, comme ici l'altiste Johnny Hodges qui parcourt cette Warm Valley.
Thank you.
Warm Valley, le saxophoniste alto Johnny Hodges, soliste ici de l'orchestre de Duke Ellington, c'était en octobre 1940. Nous l'écoutions ici en grand orchestre, donc en big band, mais j'ai déjà souligné dans cette émission l'importance des petites formations dans cette histoire du jazz, et bien sûr dans l'histoire du disque de jazz. C'est évidemment parce que c'est souvent dans ce cadre que se révèlent les solistes les plus inventifs lorsqu'ils sont en bonne compagnie. C'est le cas de Coleman Hawkins que nous retrouvons ici en 1943, lorsqu'il enregistre le thème de George Gershwin, The Man I Love, en compagnie du pianiste Eddie Haywood, du formidable contrebassiste Oscar Pettiford, que je vous recommande d'écouter attentivement ici, et du batteur Shelly Manne.
Mm-hmm.
The Man I Love, le saxophoniste ténor Coleman Hawkins en 1943, avec le pianiste Eddie Heywood, le contrebassiste Oscar Pettiford et le batteur Shelly Manne, un sentiment d'urgence que l'on retrouve dans l'exploration tous azimuts du clavier du piano par Art Tatum, une recherche qui va donner des idées aux tout jeunes trublions du jazz bebop qui vont bientôt arriver. Là encore, c'est une composition de George Gershwin, I Got Rhythm, et Art Tatum bénéficie du soutien du guitariste Tiny Grimes et du contrebassiste Slam Stewart. I Got Rhythm de George Gershwin, enregistré en janvier 1944 par le trio du pianiste Art Tatum avec Tiny Grimes à la guitare et Slam Stewart à la contrebasse. Et lorsque l'on écoute cette aisance harmonique chez Art Tatum, on se rend compte que tout est désormais en place pour l'arrivée d'une nouvelle génération de musiciens qui va reprendre ces vieux schémas de standards, mais les enrichir en les affublant de nouvelles idées mélodiques, comme le fait le saxophoniste Charlie Parker sur la grille du bon vieux standard Cherokee, qu'il va rebaptiser Coco. Voici l'enregistrement historique de novembre 1945 de ce thème Coco qui va servir désormais de référence à la génération du bebop. Charlie Parker est en compagnie du trompettiste Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie qui tient aussi en alternance le piano, du contrebassiste Curly Russell et du batteur Max Roach. Thank you. Coco, Charlie Parker et Dizzy Gillespie en novembre 1945 avec Carly Russell et Max Roach. Un enregistrement de référence de ce que l'on appelle alors le jazz bebop. Nous en avons d'ailleurs retracé la jeunesse et la genèse dans le Matin des musiciens avec Franck Bergerot. Nous en avions cerné les contours et raconté toute l'histoire par le menu. Dès lors, cette aventure va se décliner en faisant appel à d'autres ressources avec une nouvelle génération de musiciens, notamment une flopée de jeunes saxophonistes de tout premier plan que l'on trouve au sein de l'orchestre du clarinettiste Woody Herman. Woody Herman qui enregistre en décembre 1947, et là nous sommes sur la côte ouest des États-Unis, un thème de Jimmy Giuffre qui s'intitule Four Brothers et qui permet de les entendre chacun en solo. Le ténor Zoot Sims, le baryton Serge Chaloff, le ténor Stan Getz, sans oublier bien sûr Woody Herman, le chef lui-même à la clarinette, et puis à la batterie il y a Don Lamond. Four Brothers, la composition de Jimmy Giuffre pour l'orchestre de Woody Herman, en soliste Zoot Sims, ténor, Serge Chaloff, baryton, Stan Getz également au ténor, le clarinettiste Woody Herman et le batteur Don Lamond, c'était en 1947, en décembre. Trois jours plus tard exactement à New York, cette fois-ci, le trompettiste Dizzy Gillespie propose une autre version du big band, une version directement héritée du bebop, mais dans un savant mélange avec la percussion latine, en l'occurrence ici celle du cubain Chano Pozzo. Le trompettiste et le percussionniste co-signent ce titre Manteca. C'est un mariage qui aura de beaux enfants jusqu'à nos jours avec le jazz latin, le jazz afro-cubain si vous préférez, qui continue de prospérer. En voici quasiment l'acte de naissance, donc en 1947 à New York avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie. Manteca, le big band de Dizzy Gillespie avec Chano Pozzo, Conga, arrangement signé Gil Fuller en 1947 à New York, une sorte d'acte de naissance pour le jazz afro-cubain. C'est la fin de cette émission. Au cours du premier épisode de cette série, nous avons parcouru un quart de siècle de musique depuis le début des années 20 jusqu'à la quasi-fin des années 40. Le rythme va un petit peu se ralentir demain. Nous allons nous consacrer au début des années 50 où les enregistrements de jazz sont très nombreux. Cela nous donnera d'ailleurs l'occasion de revenir sur quelques-uns des sujets qui nous ont occupés au cours de ces trois saisons de Matin des musiciens. Et puisqu'il me reste quelques secondes, j'en profite pour vous signaler que ce soir à 23h dans Jazz Été, Yvan Amar rendra hommage au contrebassiste Jean-Jacques Avenel qui nous a quittés il y a quelques jours. Ce matin, j'étais en compagnie de Gilles Blanchard à la réalisation, à la technique Luc Availlant, Benoît Latil et Charles Barjou.